Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Grand principe qui nous place tout de suite dans le bain de notre sujet, le travail, ou plutôt la religion sur le lieu du travail. La religion sur le lieu du travail. Bien, chers amis, le travail est une activité intégrante à notre vie. Il n'y a pas de vie sans travail, il n'y a pas de travail sans vie. Ainsi, les deux sont étroitement liés. D'ailleurs, juste après avoir créé l'homme, et bien avant son péché, le Seigneur Dieu le plaça dans un jardin pour le cultiver et pour le garder. Ainsi, les deux grandes tâches essentielles à l'homme avant son péché, c'était cultiver et garder. Évidemment, l'homme devait aussi se cultiver lui-même. Et en se cultivant, il se garderait. Comme aussi, il devait cultiver tout le reste de la nature à sa portée, et aussi le garder. Ainsi, d'après la Bible, le travail existait même en Éden, dans un environnement parfait. Il est clair que c'était quelque chose de positif, qui faisait partie intégrante du plan originel de Dieu pour l'humanité. Après la chute, la notion de travail a été conservée, mais certains dans un environnement radicalement différent. C'est pourquoi nous lisons dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, voici ce beau texte, lisez avec nous dans votre Bible. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Bien, chers amis, en lisant ce texte, nous trouvons que la malédiction se porte sur deux parties, deux angles. Angle travail et angle vie humaine. Angle travail, pourquoi? Là, il s'agit de manger le sol, épines, ronces, etc. Pourquoi cette famine? Oui, pourquoi cette famine? Parce que précisément, le péché de l'homme vient de cette famine. L'homme a mangé un fruit, le fruit produit de la terre, l'arbre sorti de terre, ainsi manger, production, etc. Ah, non, laissez-moi fermer cette parenthèse. Et puis, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. L'homme a péché dans une fraîcheur excellente, dans une fraîche température, une fraîche atmosphère, celle d'Éden. Ah ben bon, parce que la vie était trop belle et trop bonne pour vous, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Bon, en tout cas, laissons, parce que si je continue à faire des parenthèses, j'irai trop loin. Ici, il est parlé d'une éthique du travail. Éthique du travail, c'est-à-dire la morale du travail. Mais juste avant, l'homme doit travailler. Et j'ai dit tout à l'heure que tout homme travaille. En effet, le voleur travaille-t-il? Oui, il travaille parce que l'objet à voler n'est pas chez lui. C'est dehors, ailleurs. Il doit sortir, quitter sa maison, s'engager dans la rue, parfois sous le soleil, parfois sous la pluie, parfois dans la nuit, exposer sa vie afin de prendre ce qu'il doit voir, ce qu'il veut prendre. Et si le voleur a travaillé, il travaille. Le loup-garou ou sorcier ou spirit travaille-t-il? Oui, il travaille. Premièrement, il doit aller quelque part pour prendre son point de loup-garou. Ensuite, arrivé chez lui, souvent, il en est qui doit se lever la nuit et passer la nuit au dehors, même lorsqu'il pleuvrait et qu'il serait froid, alors que dans leur lit, il leur sortirait meilleur. En outre, ils sont obligés de prendre certaines précautions avec leur propre existence, etc. Et même répondre à certaines obligeances, etc. Oui, le loup-garou travaille, etc. La prostituée travaille-t-elle? Oui, celle-là encore, il y a dépense d'énergie. Elle travaille. Ah, plusieurs peuvent ne pas aimer entendre Frère Verne parler ainsi. Attention, je ne ratifie pas les mauvaises œuvres de ces gens, non. Mais ils travaillent. Maintenant, vous allez me dire, y a-t-il de l'éthique dans leur travail? C'est là où le bas blesse. Tout travail qui ne contribue pas à aider autrui, à faire vivre autrui, à faciliter l'existence dans ce bas monde et procurer de la joie à n'importe quel individu, ce travail n'a pas d'éthique, ce travail est immoral, ce travail est inique. Par conséquent, le travailleur ne peut pas être honoré, mais plutôt il doit être livré à la justice afin qu'il subisse la peine de son iniquité. Ainsi, les catégories dont je viens de parler tout à l'heure sont justifiables. Oui, ils sont justifiables. Ils travaillent, c'est vrai, mais sans éthique. Bien-aimés, tout à l'heure, en parlant de Genèse 3, 17 à 19, le sol sera maudit, etc. Mais vous me direz, pourquoi Dieu a-t-il dit le sol sera maudit alors que le sol n'avait pas péché et n'a jamais péché jusqu'à aujourd'hui? Mais attention, la vie de l'homme est irréversiblement liée à la poussière de la terre. Premièrement, l'homme est le produit de la poussière. Deuxièmement, il vit du produit de la poussière. Par conséquent, si la poussière n'est pas maudite, l'homme n'est pas maudit. La vie de l'homme n'est pas maudite. Évidemment, Dieu n'avait jamais maudit l'homme dans sa personne. Non. Le ciel, le Seigneur n'a jamais maudit l'homme. Mais il a plutôt prononcé sa malédiction sur les activités de l'homme. Il n'a même pas maudit la vie de l'homme. Il a tout simplement dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ainsi, la peine du péché va porter uniquement sur la façon de vivre de l'homme parce qu'il avait adopté une façon de vivre en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maudit, peine, sueur, épine, once ou chardon. Ce sont là certains des termes utilisés pour décrire le sort qui attendait l'humanité après le péché. Termes employés dans le contexte du travail que l'être humain serait obligé d'accomplir dans un monde déchu. Les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre, nous ont été départis pour notre bien. Dieu les a fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. En d'autres termes, le Seigneur a rendu la vie plus dure pour l'humanité, non pour la punir, mais pour l'aider à atténuer les ravages du péché. On retrouve souvent ce principe, même aujourd'hui. Ceux qui se consacrent à un travail honnête ont généralement moins d'ennuis que ceux qui ne font rien et n'ont rien à faire. La discipline et la routine exigées par le travail, en des circonstances normales, participent à la formation du caractère, tâche cruciale pour des êtres plongés dans le péché. Une éthique du travail. L'éthique du travail est celle aussi de l'existence, car, viens-je de vous dire, l'existence humaine est irréversiblement liée au travail, car l'homme ne peut vivre sans travail, et le travail ne sera jamais travail s'il n'y a pas d'homme. Oui, et bien plus, la nature entière travaille. Le soleil travaille pour nous, il nous envoie sa lumière. La lune travaille pour nous, elle nous envoie sa lumière. Les étoiles travaillent pour nous, elles nous envoient leur lumière. Les arbres travaillent pour nous, elles nous produisent leurs fruits. Les oiseaux travaillent pour nous, ils nous envoient leurs chants, etc., etc. Chrétiens, un homme qui ne veut pas travailler, pratiquement, devait prier à l'instant même que le Seigneur Jésus lui enlève la vie sur terre. D'ailleurs, il est clairement écrit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, si un individu se sent capable de vivre sans manger, il ne peut pas travailler. Dans le cas contraire, il doit travailler. Et s'il refuse de travailler, qu'il meurt. Ceci étant dit, passons à une autre éthique de vie, ou bien de la vie, quant au travail aussi. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Je lis pour vous. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. En d'autres termes, nul ne peut vivre deux fois sur la terre. On passe une seule fois sur la terre. Et les morts ne peuvent pas recommencer leur vie. Non, ils ne peuvent pas refaire leur vie. Par conséquent, la portion de temps qui nous est accordée pour vivre doit être bien utilisée afin que notre vie se déroule bien. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Que de fois, nous voyons des gens traînés dans la plus piteuse misère parce qu'ils ne veulent pas faire n'importe quel travail. Un proverbe précise, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortes gens. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortes gens. Ainsi, tout homme doit être disposé à faire ce qui est à sa portée. Évidemment, nous n'aimons pas toutes choses. Ainsi, toute personne n'est pas vraiment taillée pour n'importe quelle œuvre ou n'importe quelle tâche. Cependant, il y a des tâches communes à tous. Oui, il y a des tâches communes à tous. Et l'essentiel pour un homme, ce n'est pas d'exécuter nécessairement un travail qu'il aime, mais plutôt de trouver son pain quotidien pour lui et sa famille. Maintenant, pendant qu'il travaille à réaliser son pain quotidien pour lui et sa famille, mais quelque part qu'il n'aime pas, ou bien dans une branche de l'œuvre qu'il n'aime pas, il peut, pendant ce temps, chercher ce qu'il aime. Mais, en attendant de trouver ce qu'il aime, qu'il fasse ce qu'il trouve, parce que il y a des choses qui n'attendent pas. Le ventre n'attend pas. La maladie n'attend pas. Le temps n'attend pas. Les obligations familiales n'attendent pas. Les obligations sociales n'attendent pas. Par conséquent, il faut les satisfaire sur l'heure. En tout cas, que ce soit dans les tableaux poignants de Vincent Van Gogh, qui a essayé de traduire la peine des mineurs au travail, ou dans certains des textes en prose de Léon Tolstoï, qui a surtout donné une image romantique des paysans au champ, les êtres humains ont cherché à exprimer, d'une manière ou d'une autre, le caractère inévitable du travail. À part quelques rares exceptions, la plupart des gens ont exercé une ou plusieurs fonctions et passent, en fait, une grande partie de leur temps à travailler. La grande question qui se pose aux chrétiens est donc celle-ci: quel type de relation doivent-ils avoir sur leur lieu de travail? Toutefois, il y a une chose que la plupart d'entre nous ont appris, ou du moins devraient avoir appris. C'est que si nous nous présentons comme chrétiens, les gens nous observeront. Or, en tant que chrétiens, nous faisons des déclarations plutôt hardies sur la vie nouvelle que nous avons en Christ, sur la paix que nous possédons, une paix qui dépasse l'entendement, sur les efforts que nous faisons en vue d'un idéal moral élevé. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des témoins de Dieu, c'est ce que nous disons. Et comme tel, réfléchissez un moment. Quel serait le meilleur témoignage à donner? 1. Vous êtes un travailleur dur à la tâche, consciencieux et honnête, effectuant ce qu'on attend de vous, et peut-être plus. Vous ne vous donnez guère de mal, coupant au plus facile, cherchant à en faire le moins possible. La réponse, certes, est évidente. Il est certain que toutes sortes de circonstances peuvent, parfois, nous empêcher d'être de bons témoins à notre travail. Mais, en règle générale, le chrétien devrait être un travailleur fiable et honnête, exécutant la tâche pour laquelle il est payé, et sachant que sa vraie récompense se trouve, non pas ici-bas, mais dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En relation avec ce contexte, Madame White a écrit au sujet des premières années du Christ, je cite, « Parfait comme ouvrier et comme homme, il n'admettait pas d'imperfection, même dans le maniement des outils. Par son exemple, il a montré que nous devons être soigneux et qu'un travail accompli avec exactitude est digne d'estime. Chacun devrait se procurer une occupation utile à soi-même et aux autres. Dieu a voulu que le travail fût une bénédiction. Et seul l'ouvrier diligent découvre la vraie gloire et la joie de la vie. » Ceci étant dit, puisque nous nous déclarons chrétiens dans notre lieu de travail, cherchons à connaître les valeurs chrétiennes sur ce lieu. Quelles sont les valeurs chrétiennes sur ce lieu de travail? Laissez-moi vous en donner les trois principales. Mais juste avant, quand on dit « valeur chrétienne », c'est quoi? Ce sont les appréciations chrétiennes, les actes d'importance chrétienne, les comportements d'importance chrétienne, etc. Les trois principales valeurs chrétiennes sont, dans le travail évidemment, la ponctualité, l'honnêteté et la sincérité. Je l'ai dit, ponctualité, honnêteté, sincérité. Les trois ensemble. Pourquoi? Parce que on peut être ponctuel par circonstance. Quelqu'un, un voisin possède une voiture, il va au travail, il doit passer et il doit passer par le lieu où nous aussi travaillons. Et bien, nous allons chaque matin avec lui et il est toujours à l'heure. Donc nous aussi sommes à l'heure. Ça fait la ponctualité. Cependant, autrement, si c'est nous qui possédons la voiture pour nous-mêmes, serions-nous ponctuels? On peut être ponctuel sans être honnête. Quelqu'un qui est ponctuel dans le sens que je viens de parler, il peut très bien ne pas être honnête. Oui, il peut ne pas être honnête. En outre, on peut être honnête par orgueil, par souci de respect de soi, qui n'est pas mauvais évidemment, mais sans être sincère. C'est pourquoi je dis les trois principaux facteurs de valeur chrétienne sur le lieu de travail sont la ponctualité, l'honnêteté et la sincérité. En effet, si nous avons les trois, nous aurons de l'activité dans ce que nous faisons et nous le ferons bien parce que nous sommes sincères, nous sommes honnêtes. Tout de même, on considère généralement qu'acheter une voiture d'occasion est une affaire hasardeuse. Sans doute la voiture est remarquablement propre et articulée, mais quel sombre secret se cache sous le capot. Le compteur est-il fiable? On dit qu'il ne faut jamais acheter ou vendre une voiture à des amis au risque de compromettre l'amitié. Mais cela ne s'applique pas aux chrétiens. En affaire, nous devons être irréprochable. Que nous vendions une voiture de particulier à particulier, ou que nous négocions avec des professionnels, nous devons être honnêtes. Quel que soit notre travail ou nos affaires, quel que soit notre degré de responsabilité, nous devons nous montrer honnêtes, honorables, justes, parce que Dieu nous demande de l'être. En effet, je vais vous lire quatre versets, disons plutôt quatre textes. L'un, Lévitique 19, versets 35 et 36. Lévitique 19, versets 35 et 36, il dit clairement, je vous cite, vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des reins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Ce texte, Exode 19, versets 35 et 36, nous invite à l'honnêteté. Et immédiatement après ce qu'il a dit, l'auteur a signé, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Rappelez-vous que, à trois reprises, nous avons déjà trouvé, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Premier, je suis l'Éternel, votre Dieu. L'autre jour, c'était, honore ton père et ta mère. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant la personne du vieillard, devant les cheveux blancs. Et il a signé, je suis l'Éternel. Ensuite, il a dit, vous sanctifierez mes sabbats, je suis l'Éternel. En sorte que l'honnêteté dans le travail, le respect dû au supérieur et la sanctification du sabbat marchent ensemble, l'un ne peut pas quitter l'autre. Et si vraiment l'un vient à quitter l'autre, le pratiquant est hypocrite, il est sur une fausse foi. Par ailleurs, Proverbe 10, verset 17, dit, Proverbe 10, verset 17, précise, je lis pour vous rapidement, Proverbe 10, 17, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande, ainsi, bien souvent, dans notre lieu de travail ou bien dans notre travail, on nous fait des réprimandes ou bien on cherche à nous corriger quant à certains points de l'œuvre. Maintenant, que devons-nous faire quand notre patron nous reprend, quand il nous indique comment exécuter notre tâche, quelle doit être notre attitude? Proverbe 10, verset 17 dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Par conséquent, nous devons nous souvenir de la correction apportée à notre travail ou bien de la réprimande apportée à notre négligence. Et pourquoi nous en souvenir? Question de dignité. Oui, question de dignité. Nous sommes des adultes. Pourquoi donc permettre qu'on nous fasse la même réprimande deux fois, trois fois, quatre fois? Ce n'est pas bien, non. Surtout si ces réprimandes sont injustes. Si ce sont des réprimandes injustes, car c'est possible. Nous devons quand même nous arranger. Oui, nous devons nous arranger d'une manière ou d'une autre. Toutefois, Jérémie 22, verset 13 dit, Jérémie chapitre 22, verset 13 dit, je lis pour vous sans difficulté. Verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Je répète, malheur à celui qui bâtit sa maison sur par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Ici, l'Éternel fait appel, non seulement à notre honnêteté, mais aussi à notre dignité et surtout à la magnanimité chez nous. Faire travailler quelqu'un sans lui payer son salaire, vraiment, ça fait de la petitesse, de l'étroitesse, de la mesquinerie. C'est une révélation de personnes de très petite catégorie. Oui. Alors, soyons généreux, soyons magnanimes, donnons à chacun ce qui lui revient. En tout cas, que nous soyons employeurs ou employés, en tant que chrétiens, nous devons faire preuve d'honnêteté et d'équité envers ceux que nous employons ou ceux pour qui nous travaillons. Il existe pire que des employés abusants de leur situation au travail, des employeurs malhonnêtes avec ceux qu'ils supervisent. Et chaque fois que nous les rencontrons, nous en sommes navrés. Oui, nous en sommes. Lévitique 19, versets 35 et 36, que je vous ai lu tout à l'heure, réclame une honnêteté ferme, une honnêteté rectiligne. Oui, parce que nous sommes chrétiens, notre conception de la justice et de l'injustice, du bien et du mal, ne se fonde pas simplement sur les caprices fluctuants de la culture et du temps. Je dis caprices. C'est-à-dire des caprices, des hauts et des bas. Des caprices qui varient d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Mais nous devons nous appuyer sur le Dieu éternel qui, lui, demeure immuable. C'est pourquoi agissons avec droiture et honnêteté, parce que ces qualités ont leur source en Dieu, notre Créateur et Rédempteur. Ne nous montrons pas honnêtes, intègres et justes seulement quand cela nous arrange. Quand ce genre de comportement sert nos intérêts, non. Ce sont des principes fondateurs qui doivent être à la base de toutes nos actions en tant que chrétiens, que ce soit chez nous ou sur notre lieu de travail. En outre, qu'est-ce que nous remarquons bien souvent? Quand nous avons un patron qui réclame l'exactitude dans notre travail, nous disons, cet homme est dur, c'est un homme dur, c'est un homme qui ne m'abîme pas, c'est un homme raide, etc. Ce n'est pas de la dureté, non, ce n'est pas de la dureté. Au contraire, c'est de l'honnêteté chez lui quand il vous réclame l'exactitude dans votre travail, quand il vous demande d'exécuter votre tâche à la perfection, ou bien le plus près possible de la perfection, ce n'est pas de la dureté. Généralement, Nous diffamons le nom de ceux-là qui essaient de bien faire et qui nous invitent à bien faire. Ce n'est pas bien. C'est malhonnête. Nous pourrions diffamer leur nom si ce qu'ils nous disent est mauvais. Mais si leur dire est bon et vrai, vrai et bon, bon et vrai, pourquoi ne pas les appliquer avec conscience et en toute reconnaissance à celui qui vous a parlé, au lieu de diffamer son nom ou bien de rejeter sa réputation dans la boue? Mes chers amis, les valeurs chrétiennes doivent être appliquées partout. Et en les appliquant, ils concernent non seulement la tâche que nous exécutons, mais elles concernent aussi notre personne. Exemple, celui qui travaille doit apporter du savoir-vivre dans son milieu de travail. Il doit apporter de la maîtrise de soi en son travail, du renoncement en son travail, de l'humilité en son travail. Que ce soit à l'armée, à l'école, à l'usine, au foyer ou à l'église, la discipline joue un rôle essentiel. Elle a deux aspects. La plupart d'entre nous, au moins de temps en temps, doit réprimander autrui, nos enfants, nos collègues ou nos membres d'église. Nous devons apprendre à le faire avec cohérence, tact, justice et compassion. Mais nous aussi devons être réceptifs aux critiques et apprendre à accepter les conseils, les directives et, si nécessaire, les sanctions d'une manière mature et constructive. Chrétiens au travail, apprenons non seulement à discipliner et à corriger, mais aussi à avoir les mêmes exigences envers nous-mêmes. De même, il peut arriver qu'un employé chrétien ait l'impression d'avoir été injustement traité par son patron, par exemple. Néanmoins, Jésus a prononcé de puissantes paroles au sujet du comportement que doit observer une personne injustement traitée. Rappelons-nous cela. En plus, en tant que employé ou employeur, nous devons être des gens perfectibles, des gens qui apprennent, des gens disposés à devenir meilleurs que nous sommes, et cela de jour en jour. La Bible nous donne l'exemple de personnes choisies par Jésus pour être ses disciples. Mais quand nous considérons bien, c'était des gens totalement éloignés du domaine pour lequel Jésus les appelait. Mais juste avant, il se peut que l'on nous dénonce quelqu'un qui soit malveillant ou bien délinquant dans son travail, qui agisse mal. Oui, dans ce cas, que devons-nous faire? Nous pouvons même arriver à le surprendre la main dans le sac. Que faut-il faire? Si nous pouvons lui pardonner, pourquoi pas? Si nous pouvons lui donner, lui accorder une deuxième chance, pourquoi pas? Et lui aussi, lorsqu'il aura reçu le pardon, il aura reçu l'occasion pour une nouvelle chance. Pourquoi ne doit-il pas en profiter? Et plus tard, un employé que nous aurions renvoyé et qui revient vers nous pour son travail, pourquoi ne pas le reprendre parce que peut-être sa conscience lui a reproché et à ce moment-là, nous pouvons avoir un meilleur collaborateur? Bien-aimés, en tout ce que nous faisons, apportons de l'humanisme, apportons du christianisme, apportons de l'altruisme. En le faisant, Dieu tiendra compte, oui, car il est écrit, heureux des apprises dans les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Ainsi, quand viendra le jour de la mort, le patron qui aura fait vivre et fait vivre encore, en dépit des incompréhensions rencontrées, des malveillances et de tous les mauvais comportements endurés, ce patron mourra dans une conscience calme un esprit tranquille, un cœur confiant, parce qu'il sait à bien travailler, non seulement pour lui, mais aussi pour son semblable, et surtout pour la gloire de son Dieu. Maintenant, revenons à un point. Quelqu'un que nous aurions envoyé et qui reviendrait à nous, que doit-il dire? Nous devons apprendre à reconnaître la valeur d'autrui. Souvent, cette reconnaissance ne nous vient pas à la première vue. Mais avec le temps, quand nous le constatons, nous constatons que l'individu que nous avons exécré est l'un des meilleurs personnages de la terre. Pourquoi ne pas l'attirer à nouveau vers nous en reconnaissant franchement notre erreur? Et cela fera du bien. La Bible nous donne l'exemple de trois personnes. Paul, Barnabas et Marc. Les trois étaient en tournée missionnaire. À un certain moment crucial du travail, Marc a laissé Paul et Barnabas. Après, Barnabas a voulu reprendre Marc avec lui afin de continuer la tâche avec Paul. Celui-ci, intransigeant, n'entendit aucun son. Il ne prendrait pas Marc. Et Barnabas tenait à Barnabas. Maintenant, comme les deux étaient en divergence, qu'est-ce qui arrive? Paul s'est dirigé sur son chemin et Barnabas aussi, en prenant Marc avec lui. Longtemps après, de Timothée 4, verset 11 nous dit, longtemps après, de Timothée 4, verset 11, nous allons trouver sous la plume de Saint Paul, disant à son ami Timothée, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Quelqu'un qui l'avait envoyé, avec qui il n'a pas voulu collaborer, et dont il reconnaît maintenant l'utilité pour le ministère. Bien aimé, avons-le vite. Quand nous faisons une faute, reconnaissons que c'est une faute. Oui, seulement cela. Reconnaissons que c'est une faute. Et immédiatement, non seulement nous serons pardonnés, mais nous aussi serons satisfaits de nous-mêmes en un certain sens, avec une certaine humilité évidemment, parce que nous aurons une conscience claire et un esprit irréprochable. Pour résumer, disons, en tant que chrétiens, nous devons travailler. Et notre travail se fait avec autrui et sous leur assistance. Nous devons apporter à notre travail une certaine éthique, c'est-à-dire une certaine morale, afin que notre religion soit perçue et que, en notre personne propre, on reconnaisse que nous avons été avec Jésus, car celui-ci réclame qu'en toute chose, nous soyons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, tu t'es montré soucieux de tes enfants dans tous les aspects de notre vie. Certes, en nous créant, tu as prévu du travail pour nous. Et c'est une grande bénédiction que d'avoir pensé ainsi. En effet, tu nous donnes à travailler. C'est vrai, à cause du péché, le travail est souvent désagréable. Cependant, Ce n'est pas le travail en soi dans sa lettre qui est désagréable, mais les difficultés qui l'accompagnent. Toutefois, nous reconnaissons le côté éducateur de ces difficultés. Accorde donc à tes enfants de les subir avec les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, en sorte que par elles, nous devenions des chrétiens plus authentiques pour toi. Veuille nous bénir dans toutes nos activités, bénir ces activités aussi, en sorte qu'en toutes choses, nous rencontrions la bénédiction enrichissante de l'Éternel. Aie pitié de chaque travailleur de la terre, du plus élevé jusqu'au plus petit, et permet que nous tous trouvions de la joie et de la satisfaction en toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.
Mon pauvre Père.